Chers frères et sœurs et chers amis, nous arrivons à l'étude numéro 40, toujours sur le thème le plus important qui concerne la prière. L'étude d'aujourd'hui aura comme titre « Prions pour l'unité entre chrétiens ». Est-ce que vous aimez les uns les autres? Jésus-Christ a dit « En cela, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour, oui, de l'amour les uns pour les autres ». Saint Jean, chapitre 13, verset 34. On a dit des premiers chrétiens, comme ces chrétiens s'aimaient les uns les autres. Actuellement, le monde pourrait dire à maintes occasions et de manière justifiée, comme ces chrétiens se haïssent et se combattent les uns les autres. Les deux principales accusations de non-chrétiens envers les chrétiens s'appuient sur deux points. A. L'hypocrisie. B. La division. Le sectarisme et la division sont en effet les principales excuses avancées par le peuple qui ne fréquente pas l'Église. Cependant, l'union de l'Église ne constitue une réponse que si elle est sincèrement dans l'Esprit Saint. L'union n'est pas l'unité. On peut attacher à la même corde un chat et un chien, mais on obtiendra une union, pas forcément. On obtiendra peut-être une union, pourquoi pas, mais jamais une unité. Donc, Jésus-Christ était un avec le Père de façon la plus parfaite et la plus totale, et il priait pour que nous puissions ne faire qu'un, de même que lui et le Père ne sont qu'un, et ceci afin que le monde puisse croire. Saint Jean, chapitre 17, versets 21 à 23. L'évangélisation mondiale est ravivée et ne peut certainement pas arriver alors que les croyants ne sont pas tous unis dans l'Esprit Saint et sanctifiés par la sainte parole de Dieu qui est la vérité. Saint Jean chapitre 17 verset 17. L'une des manières les plus subtiles et diaboliques dont les non-chrétiens ont usé pour attaquer l'Église chrétienne a été de répandre des mensonges, des rumeurs, la suspicion et la division parmi les chrétiens. Unis, nous résistons, divisés, nous tombons. Et il n'y a pas de manière plus rapide ni de plus efficace pour anéantir l'Église que de susciter la division. Les attaques extérieures directes et la persécution ont toujours provoqué l'essor de l'Église et la croissance des vrais chrétiens. La subversion sournoise venant de l'intérieur est beaucoup plus dangereuse. Plus de gens meurent de maladies internes telles que les malaises cardiaques, il y a beaucoup plus de gens qui meurent de cela et des cancers, que de chocs externes tels que les accidents, violences, etc. Prions donc sans cesse afin que Dieu nous préserve des attaques externes et internes, des attaques externes des athées et de ceux qui veulent persécuter l'Église, donc des attaques internes causées par le péché au sein de l'Église, parmi lesquelles la division, la critique, etc. Car voici le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, nous est-il dit dans la première épître de Saint Pierre, chapitre 4, verset 17. Si nous voulons vraiment constater que notre génération est touchée par l'Évangile, et ceci au plan mondial, eh bien, il nous faut avant tout être justes nous-mêmes. Et à cet effet, nous devons nous poser les questions suivantes. Ai-je un esprit critique? Est-ce que je juge ou est-ce que je condamne d'autres chrétiens? Suis-je sectaire? Suis-je toujours honnête et aimable dans mes propos envers d'autres chrétiens? Ai-je tenté et les anéantir? Ou même, peut-être le contraire, ça serait mieux, les élever? Est-ce que je les fais le mal ou est-ce que j'ai fait le bien envers eux? Ai-je, on peut aussi dire, tendance? Ai-je tendance à concurrencer d'autres chrétiens? Est-ce que j'aime vraiment tout le corps de Christ? Voilà une question. Et ceci au point de tout mettre en œuvre pour venir en aide à n'importe quel membre du corps. Notez 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 9. Sans oublier le chapitre 12 verset 12 à 27. La division dans l'Église, elle a de nombreuses racines. On va en citer environ 8. Premièrement, il y a l'envie. Oui, la jalousie envers d'autres chrétiens ou d'autres églises ou envers ce que Dieu leur procure. Deuxièmement, il y a l'orgueil. C'est le désir d'être mieux que les autres et de tenter d'abaisser les autres pour s'élever au-dessus d'eux. Troisièmement, il y a le sectarisme. Ne pas vraiment vouloir aimer et s'unir à ceux qui diffèrent un peu au sujet du Saint-Esprit. Quatrièmement, il y a la construction d'un empire. Un désir païen d'élever notre Église, oui, notre œuvre ou notre groupe, et ceci aux dépens des autres. Cinquièmement, il y a un esprit de compétition. Ça veut dire tenter de concurrencer les autres sections du corps de Christ et d'être beaucoup meilleur et plus important qu'eux. Sixièmement, il y a l'étroitesse de vue. Ne pas regarder plus loin que les barrières que nous avons élevées tout autour de nous. Ne pas reconnaître ou n'avoir rien de commun avec les autres parties du corps de Christ. Regardez ce que Dieu fait pour eux. Septièmement, il y a l'isolement. Eh oui, ne pas fréquenter les autres. C'est carrément refuser de s'accorder avec eux pour restaurer la véritable unité par le lien de la paix. Cela provient souvent de l'amertume et d'un esprit non pardonné, ou bien cela, en tout cas, peut mener à un esprit de non-pardon. Et huitièmement, il y a l'exaltation de la doctrine au-dessus de l'amour. Oui, ça veut dire devenir tellement obsédé par notre véritable doctrine et si déterminé à ne pas laisser échapper une once de vérité que nous en devenons très durs, conservateurs, inflexibles et sans aucun amour envers ceux qui diffèrent un peu de nous. Nous oublions que nous sommes exhortés, je crois, à nous efforcer de garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et ceci jusqu'à ce que nous parvenions, nous tous, à l'unité de la foi, selon Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3 et versets 13 et 14. L'ordre et d'importance, bien entendu, si nous attachions plus à maintenir l'unité de l'esprit, nous parviendrons davantage et plus rapidement à l'unité de la foi, parce que la vérité est dans l'ensemble du corps, pas seulement dans l'une de ses parties. Il y en a qui sont plus avancés pour les choses du Saint-Esprit, d'autres qui ont compris l'absolue importance d'être sauvés. Tout cela donne un équilibre et il ne faut pas mépriser ni une partie par rapport à une autre. Cette unité ne peut pas rester à l'état de simple mot. Ça, c'est un non-sens. Elle doit être concrète, spirituelle, dans l'Esprit Saint. L'union produite par l'homme ne fonctionnera jamais. Ce que certains rassemblent, eh bien d'autres l'éparpilleront. Mais ce que Dieu fait à sa façon, ça demeurera. Ah, qu'il est bon, chers amis, qu'il est délicieux pour des frères et sœurs d'habiter ensemble, même avec des petites différences de compréhension. Car c'est là que l'Éternel a établi la bénédiction, la vie à jamais. Psaume chapitre 133, versets 1 et 3. Le besoin est donc urgent de prier pour une véritable unité dans l'Esprit Saint entre tous les chrétiens, les églises et les organisations chrétiennes. Dans Saint Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19, Jésus-Christ parle de la construction de son Église afin que les portes de l'enfer ne prévalent pas sur elle. Dieu veut que l'Église, son corps, soit solide, résistante et puissante dans l'Esprit Saint. La division y fera toujours obstacle. Voyez-vous, les passages suivants vont nous parler tous du corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. Vous pouvez noter les versets que je vais vous donner, parce que même si ça a l'air barbant que je nomme toutes ces citations bibliques, eh bien ça a une grande importance pour plus tard. D'abord, vous pouvez constater que ces études viennent bien de la parole de Dieu, que ce n'est pas simplement un enseignement de quelqu'un de particulier, peut-être même d'excentrique, ce qui serait dangereux. Alors notons tout d'abord Romains 12, versets 4 et 5, 1 Corinthiens chapitre 10, versets 16 et 17, Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23, Colossiens 1, versets 18 et 24. Donc, tous ces versets sont très importants. Et l'examen de ces passages vont nous montrer les choses suivantes. Premièrement, Christ est bel et bien la tête de son corps, l'Église. Deuxièmement, il n'y a qu'un seul corps et tous sont unis en lui. Troisièmement, le corps a de nombreux membres, tous revêtus de différentes fonctions, mais tous sont utiles, alléluia, et tous sont nécessaires. Et quatrièmement, Christ sanctifie l'Église et l'érige jusqu'à ce qu'elle soit parfaite et sainte. Totalement exempte de blâme. Excusez-moi des fois de ne pas prononcer tout à fait correctement peut-être certains mots, étant donné quand même que je suis un Suisse toto, n'est-ce pas? Alors évidemment, c'est pas tout à fait la même chose qu'un Parigot. On ne peut pas comparer. Bon, alors, j'ai dit, quatrièmement, Christ sanctifie l'Église et l'érige jusqu'à ce qu'elle soit parfaite et sainte, exempte de blâme. Alors, là, nous avons la direction, c'est Christ. Nous avons la singularité, c'est un seul corps. Nous avons l'unité, c'est une unité totale. mental dans le corps. Nous avons la diversité. C'est la diversité dans le corps. Nous avons l'égalité. C'est l'égalité de tous les membres. Nous avons la sanctification. C'est le corps qui est sanctifié. Nous avons l'édification. C'est le corps qui est édifié. Et pour terminer, nous avons la glorification qui est le corps qui est glorifié. Il glorifiera sa tête, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons dans Saint Jean chapitre 10, verset 16, où il nous est indiqué qu'il y a plusieurs brebis. Eh oui, mais s'il y a plusieurs brebis, il y a un seul troupeau. Ça, nous oublions souvent. Et un seul berger. La base de l'unité est la coopération. Je répète, la base de l'unité, c'est la coopération les uns les autres avec le Seigneur. Et ceci dans le corps de Christ. La base n'est pas une doctrine, ni une directive, ni une tradition ou une dénomination, mais c'est la coopération dans et avec Christ, selon Apocalypse chapitre 7, versets 9 à 12. Donc, si nous voulons voir l'Église atteindre effectivement notre nation pour Christ, eh bien, nous devons intercéder pour l'unité. Prions donc pour l'unité dans l'Église. Prions pour l'unité entre les Églises. Prions pour l'unité entre les organisations chrétiennes. Prions aussi pour l'unité entre les chrétiens. Nous devons donc prier pour l'évangélisation. Trop souvent, l'évangélisation est organisée et perçue comme si tout dépendait d'elle, de ce que nous disons, de notre aptitude à convaincre le peuple de recevoir Christ. Nous oublions que personne n'est converti si l'Esprit-Saint n'a pas œuvré, n'a pas amené les personnes vers Jésus-Christ, selon Saint Jean chapitre 1, versets 11 et 12. Je répète, Évangile de Jean, chapitre 1, versets 11 et 12, Évangile de Jean toujours, chapitre 3, versets 3 à 8, et encore Évangile de Saint Jean, chapitre 6, versets 44. Oui, la plus grande faiblesse de l'ensemble de nos efforts d'évangélisation réside dans une trop grande organisation, et ceci au dépend du temps qui a été accordé à Dieu dans la prière. On en revient toujours à la prière. Pourquoi devons-nous prier? Eh bien, regardons ça un peu ensemble. Je nommerai trois exemples. Premièrement, parce que Dieu nous a dit de prier. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, demandez, vous recevrez. Saint Jacques, chapitre 4, verset 2, ainsi que Saint Luc, chapitre 11, versets 9 et 10. La prière prouve que nous dépendons de Dieu. L'intercession est le lien entre l'importance de l'homme et l'omnipotence de Dieu. Sans prier, il n'y a pas de pouvoir. Deuxièmement, parce que notre but et notre ambition doivent être de connaître Dieu et surtout de le faire connaître. Ceci est primordial. Le déferlement de sa connaissance nous permettra de le faire connaître. Le témoignage doit être le déversement d'une vie remplie d'Esprit Saint. Remarquons l'assurance de l'apôtre Pierre et de l'apôtre Jean, et comprenant que c'était des illettrés. Et oui, ils ne sont pas faits la Sorbonne, je ne crois pas. Donc, c'était des illettrés et des simples. Simple ne veut pas dire imbécile. Ils étaient dans l'étonnement. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 13. Le culte précède le service. Jésus-Christ a dit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Saint Luc, chapitre 4, verset 8. Non seulement cet ordre est très important, mais aussi l'équilibre entre sa connaissance et de le faire connaître. Avoir simplement la connaissance dans ma tête, c'est pas la meilleure des choses. Ça, vous pouvez me croire. Et j'en sais quelque chose. Et troisièmement, parce qu'il n'y a pas d'évangélisation effective sans la prière. Notez Colossiens, chapitre 4, versets 2 à 4. Donc, prions pour l'ouverture des portes des cœurs et la clarté du témoignage. L'intercession également se tient sur la brèche. Elle se tient entre Dieu et l'homme. Psaume, chapitre 106, verset 23, et Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Ensuite, elle se tient entre les forces démoniaques et l'homme. Nous avons donc entre Dieu et l'homme, et nous avons entre les forces démoniaques, les forces du mal et l'homme. Là, vous pouvez noter Daniel, chapitre 10, verset 12 à 14, ainsi que Jude, verset 9. La prière d'intercession pour l'évangélisation nous permet de nous tenir sur ces deux brèches. Pourquoi, chers amis, les premiers chrétiens priaient-ils? Comment devons-nous prier en ce qui concerne l'évangélisation? Dans le domaine du Nouveau Testament, nous trouvons les exemples suivants de prières relatives à l'évangélisation, et ces huit points ont une certaine importance. Premièrement, la prière pour que le Seigneur puisse envoyer des ouvriers, Saint Matthieu 9, verset 35 à 38, ainsi que Saint Luc, chapitre 10, verset 2. Deuxièmement, il y a la prière pour l'assurance, les signes et les miracles. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 29 à 31. Troisièmement, il y a la prière pour prier. Eh oui, Actes 16, verset 25. Quatrièmement, il y a la prière pour que le peuple soit sauvé. Romains 10, verset 1. Cinquièmement, la prière pour que le peuple puisse se réconcilier avec Dieu. Selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20. Sixièmement, il y a la prière pour l'assurance, avoir de l'assurance. Éphésiens, chapitre 6, verset 18 à 20. Septièmement, il y a la prière pour l'ouverture des portes et la clarté du témoignage. Colossiens 4, verset 2 à 4. Et huitièmement, il y a la prière pour la sagesse, la discipline, la volonté. Tout cela est important. Et là, vous pouvez noter Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Chers amis, les premiers disciples, croyez-moi, ils priaient beaucoup et ils louaient beaucoup, pas uniquement pour rendre témoignage, mais aussi pour être près de Dieu, oui, et être remplis de l'Esprit Saint. Alors, au moment opportun, leur prière était exaucée. Leur témoignage était l'écoulement spontané de leur vie qui était remplie de l'Esprit Saint. C'était celui d'un peuple aimant de tout son cœur le Seigneur, partageant son amour et sa joie avec les autres. Vous pouvez noter Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 1 à 3 et le verset 9. En outre, l'appel à l'évangélisation était toujours accompagné de la promesse du pouvoir de l'autorité Saint Matthieu 10, verset 1. Et vous pouvez aussi noter chapitre 28, verset 18 à 20. On pourrait encore noter Saint Marc, chapitre 3, verset 14 et 15. Et encore, Saint Luc, chapitre 9, verset 1 et 2. Chers amis, voyez-vous, la nécessité de la prière est donc absolument, qu'on le veuille ou pas, primordial. Je me demande pourquoi le corps de Christ, le peuple de Dieu, néglige cela. La prière est absolument nécessaire, et ceci avant l'évangélisation, et aussi pour vous-même, et pour ceux auxquels vous rendrez témoignage, et encore en plus pendant l'évangélisation, pour la sagesse, et le pouvoir et l'autorité, et également après l'évangélisation, c'est-à-dire pour continuer et obtenir des conseils supplémentaires. Donc, on reprend premièrement, nous avons dit, avant l'évangélisation, d'accord ? Donc, avant l'évangélisation veut dire pour nous-mêmes, pour vous-même. Nous devons rechercher Dieu et découvrir sa volonté pour le lieu où nous devons témoigner, pour la bonne méthode. Prions, suivant le psaume 139, versets 23 et 24, et laissons Dieu traiter tous les péchés de notre vie qui cache ses fautes. Et si je cache mes fautes, cela ne réussira pas. Mais que de les confesser et d'y renoncer sera, croyez-moi, pris en considération. Proverbe 28, verset 13. Demandons donc à Dieu de nous remplir et de nous guider par son Esprit Saint, sans lequel nous sommes totalement impuissants. Saint Luc 11, verset 13. Et nous pouvons ajouter Actes des apôtres 1, donc chapitre 1, verset 8, sans oublier le chapitre 4, verset 8. Recevons donc par la foi et n'oublions pas de remercier. Pour ceux devant lesquels vous rendez témoignage, ça c'est important de être éclairé avec sagesse. Nous devons donc nous tenir sur la brèche entre Dieu et l'homme et intercéder pour les égarés. Il n'y a pas plus rapide, ni mieux, ni plus durable que d'avoir un fardeau et de l'amour pour les égarés. Ça, c'est plus efficace que de simplement prier sans arrêt pour n'importe quoi. Si vous n'avez ni intérêt, ni compassion pour les égarés, alors, priez pour que Dieu vous l'accorde et pour que l'amour de Christ vous contraigne à prier pour eux et aussi à témoigner devant eux. Demandez à Dieu de vous aider à regarder les gens tels que Dieu les regarde. Prions pour que Dieu prépare leur cœur afin qu'ils soient réceptifs plutôt que le contraire. Prions donc pour que Dieu puisse créer et développer une fin de réalité des choses spirituelles. Oui, prions, chers amis, pour que Dieu illumine leur esprit et leur cœur de la vérité à propos de Christ. Donc, prions pour qu'il les convainc qu'ils sont pécheurs et qui les conduisent au salut et à la coopération. Aussi, remercions Dieu avec ferveur d'agir au moment et de la manière qu'il aura choisi. Lorsque vous priez, chers amis, soyez précis, exprimez le nom, le besoin et la situation de la personne. Ne priez pas pour les millions d'égarés alors que vous omettez de prier pour la personne qui est devant vous, à côté de vous. Nous devons aussi nous tenir sur la brèche entre les forces sataniques et l'homme. Le Dieu de ce monde, il a aveuglé les esprits des incroyants. Pourquoi ? C'est pour les empêcher de voir l'Évangile et surtout de le croire. 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4. Et c'est pourquoi que le diable remplit le peuple d'effroi qui est le contraire de la foi. Et ceci afin qu'ils ne répondent surtout pas. La vie chrétienne est un combat, spécialement pour ce qui est du témoignage. Là, on peut noter 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. Mais Dieu nous a donné l'armure avec laquelle nous pouvons combattre. Notez Éphésiens, chapitre 6, verset 10 jusqu'au verset 20. Et sans compter l'assurance et la victoire, Philippiens 4, verset 13. Donc, grâce aux ferventes intercessions en esprit, les puissances des ténèbres peuvent être repoussées, les aveugles peuvent voir, les esprits sont illuminés et les prisonniers sont libérés des mains de l'ennemi. Colossiens 2, verset 13 à 15, Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15, sans oublier la première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Donc, nous devons reconnaître notre autorité, selon Saint Luc, chapitre 10, verset 19. Nous devons revêtir notre armure et, évidemment, combattre. Nous combattons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pouvoir de l'Esprit-Saint, couvert et protégé par le sang de l'agneau, jamais oublier cela, usant du calvaire de l'Esprit-Saint, qui est la parole de Dieu et celle de notre témoignage. Apocalypse 12, verset 11. Deuxièmement, nous savons que nous devons aussi prier pendant l'évangélisation. Voyez-vous, lorsque nous rendons témoignage, nous devons prier pour la sagesse, l'assurance, l'autorité, la puissance et la foi. Il faut prier contre la peur et les doutes. Qui sait qui n'a pas parfois peur ? Et qui sait qui n'a jamais des doutes ? Il faut prier pour que l'Esprit-Saint accorde aux gens l'entendement spirituel, un signe et un désir de recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Nous devons parfois également traiter directement avec les forces des ténèbres et qui sont en cours de témoignage ou de prédication. Alors que l'on conseille quelqu'un, il y a là des forces des ténèbres, hein, et nous devons lutter. Par exemple, si quelqu'un dit « Je veux recevoir Christ et lui soumettre ma vie, mais je ne le peux pas. Je ne le peux pas. » Alors, dans ce cas, il y a quelque chose qui empêche, non ? Et j'ignore ce que c'est à premier abord. Certaines personnes désirent ardemment avoir la foi pour croire, mais, curieusement, elles sont liées dans l'incroyance par les chaînes sataniques. Elles peuvent être possédées même par des esprits démoniaques, ou bien ceux-ci peuvent même les oppresser, voire même les déprimer. Il faut donc qu'elles soient libérées avant de pouvoir venir à Christ, c'est clair. Il est alors nécessaire d'affronter la puissance de l'ennemi, et ceci au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons des fois l'affronter. Ce n'est pas le tout de simplement prendre les jambes à son cou. Et nous devons ainsi libérer la personne afin qu'elle puisse comprendre, qu'elle puisse croire et recevoir Christ dans sa vie. Saint Matthieu 18, verset 18. Et troisièmement, nous devons aussi prier après l'évangélisation, je l'ai déjà dit. Il est donc primordial de revenir pour rendre grâce à Dieu et de le louer. Et ce que les dix n'ont pas été purifiés, rappelez-vous, il y en avait 10 qui ont dû être purifiés. Or, les 9 autres, j'aimerais bien savoir où ils sont. Il ne s'est trouvé pour revenir rendre gloire à Dieu que cet étranger, selon Luc chapitre 17, versets 17 et 18. Le besoin de continuer à prier afin que Dieu œuvre dans la nouvelle vie et le nouveau cœur du chrétien, qu'il leur rappelle nos paroles et qu'il les incite à lire et à se conformer à la parole de Dieu, ça, c'est encore un autre point très important, mais hélas, souvent négligé. Voyez-vous, le moment le plus important de la prière dans l'évangélisation, c'est probablement après que la personne soit convertie. Il faut donc prier. Voyez comme c'est important tout cela. Ça a l'air de rien. Il faut donc prier pour que le nouveau converti puisse prier lui-même, elle-même, et lire la Bible. Qu'il ou elle recherche la compagnie d'autres chrétiens et qu'il obéisse aux élans de l'Esprit-Saint, qu'il soit fidèle à son témoignage pour Christ et qu'il devienne un pécheur d'âme à lui-même. N'est-ce pas? Elle-même. C'est pas le tout, nous sommes sauvés pour servir. Il y en a peu qui comprennent cela. Il y en a qui désirent être sauvés égoïstement pour soi-même et se frotter les mains, s'asseoir dans un fauteuil et se dire merci beaucoup Seigneur. Oui, on peut faire cela. Ce n'est pas dit que c'est la meilleure chose. Il faut donc prier pour qu'il ou elle devienne fort dans le Seigneur et dans la puissance de sa volonté, qu'il ou elle résiste à l'ennemi à l'heure de la tentation. Il faut prier pour qu'il soit constamment rempli de l'Esprit-Saint. Il faut prier jusqu'à ce qu'il soit enraciné. Lorsque Dieu ôte le poids de la prière, alors notre responsabilité dans la prière, elle cesse. Voyez-vous, nous devons nous tenir sur la brèche, toujours. Ce n'est pas facile. Et ceci contre les pouvoirs des ténèbres. Eux, croyez-moi, ils sont sur la brèche. Et nous devons donc être prêts aussi longtemps que les attaques les plus vicieuses de Satan persistent. Et ceci au cours des mois suivants, la conversion de ces personnes. Je dis bien au cours des mois suivant leur conversion. C'est un grand travail. Même si une personne ne vient pas à Christ au moment où vous avez témoigné devant elle, ne vous découragez pas. Vous pouvez constituer un maillon de la chaîne de sa conversion. L'un, il sème, l'autre, il ou elle arrose. Et c'est Dieu qui fait germer. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 9. Prions donc pour que Dieu continue à leur parler au travers de sa sainte parole et pour qu'ils viennent à Christ. Prions pour que d'autres chrétiens leur rendent aussi témoignage et pour que Dieu ne leur laisse pas de repos jusqu'à ce qu'ils viennent à Christ. Arrosons donc la graine de la parole de Dieu avec nos ferventes prières. Notez également Ésaïe, chapitre 55, versets 6 à 11. La prière et son suivi est évidemment très important. Dans bien des cas, le suivi le plus efficace est d'élever constamment le nouveau chrétien dans la prière. Nous devons le remettre aux mains et aux bons soins de l'Esprit-Saint, surtout jusqu'à ce qu'il soit affermi et adulte dans la foi. Les façons d'effectuer le suivi sont A. La prière constante, selon Philippiens 1, versets 3 à 11, sans oublier 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 2, jusqu'au verset 10. B. Les conseils individuels fournis par celui qui a mené les nouveaux chrétiens à Christ. 1 Thessaloniciens 2, versets 17 à 18, ainsi que le chapitre 3, verset 10. Oui, on peut aussi dire, nous devons leur faire parvenir des documents. Pourquoi pas des cours bibliques par correspondance, cela existe. Des livres, des magazines, et sans oublier, des CD pour qu'ils puissent écouter et recevoir un bon enseignement. La prière constante est la plus efficace, mais elle doit évidemment provoquer toutes les autres méthodes. Hein ? Les nouveaux chrétiens sont rarement trop suivis, souvent jamais suivis. Servez-vous de tous les moyens possibles pour leur apporter la maturité en Christ. La maturité en Christ, ce n'est pas du tout une question d'âge. Ne vous limitez pas à une seule méthode ou une seule personne. Confiez-les aux mains et à la protection de Dieu le Père, selon Saint Jean chapitre 10, verset 29. Reportez-vous également à Colossiens, chapitre 1, verset 9, jusqu'au verset 12. Alors, je dirais donc, priez. Oui, priez. Je vous donnerai 9 exemples. Premièrement, priez donc le Seigneur de la moisson de dépêcher des ouvriers à sa moisson. Saint Matthieu 9, verset 37. Deuxièmement, priez pour les évangélistes et pour les missions, afin qu'une foule nombreuse afflue vers le Seigneur. Troisièmement, priez pour les institutions bibliques et pour ceux qui évangélisent le peuple. Quatrièmement, priez pour que tous les nouveaux chrétiens partagent leur foi en Christ, en parole et surtout par leur vie. Cinquièmement, priez pour que le peuple de Dieu soit constamment rempli de l'Esprit Saint et que le jaillissement spontané de leur vie soit rempli d'Esprit Saint et entraîne beaucoup d'autres vers Christ. Sixièmement, priez pour une vision missionnaire, ceci afin que les chrétiens soient envoyés par-delà les océans pour évangéliser, y compris dans les pays à risque, ainsi que dans notre propre pays. Septièmement, priez pour que les convertis soient rivés dans la foi et qu'ils soient guidés vers une véritable collaboration, une véritable collaboration et une véritable maturité en Christ. Huitièmement, priez pour que l'Évangile soit puissamment prêché, et ceci dans toutes nos églises, afin que beaucoup de chrétiens de dénominations différentes soient confrontés aux vérités de la parole de Dieu et de l'Évangile, et qu'ils renaissent véritablement à une vie nouvelle. Et neuvièmement, prier pour tous les objectifs et réunions évangéliques dans les rues, les foyers, les bars, les parkings, sur les plages même et dans les camps, les rassemblements, etc. Si nous voulons que notre nation se tourne à nouveau vers le Seigneur et qu'elle soit guérie de ses voies mauvaises, alors nous devons réaliser que le changement commence dans le cœur des individus. Et notre nation sera alors aussi forte moralement que d'autres et telle que les croyants qui seront vivifiés, fortifiés. Donc, prions toujours pour l'évangélisation et pour que des âmes soient sauvées, pas seulement à l'étiquette de notre propre dénomination, mais à tout le corps de Christ dans la diaspora. Oui, nous devons prier pour le renouveau même, le renouveau spirituel. Cinq mots sont utilisés dans la Bible pour illustrer la signification du renouveau spirituel qui est doté d'un sens similaire. Nous avons, on peut dire « à », « revivre ». Revivre signifie revenir à la vie. « Ne nous feras-tu pas revenir à la vie ?» Psaume 85, verset 7. « Seigneur, ton action au cours des années fait la vivre. » Habacuc, chapitre 3, verset 2. Et notez aussi Isaïe, chapitre 57, verset 15. Nous avons renouvelé. Ça, c'est B. Renouvelé. Renouveler signifie rénover quelque chose, c'est-à-dire créer pour moi, ô Dieu, oui, créer pour moi, ô mon Dieu, un cœur pur, et renouvelle en mon sein un esprit affermi, selon le psaume 51, verset 12. Et vous pouvez noter aussi Isaïe 40, verset 31. C'est, nous avons restauré. Restaurer signifie ramener quelque chose à son état et à sa gloire originale. Là, on peut noter Joël, chapitre 2, versets 24 et 25, sans oublier le psaume 51, versets 10 à 12. D, nous avons rafraîchir. Nous avons donc vu A, B, C, maintenant D, rafraîchir. Rafraîchir signifie rendre à nouveau quelque chose frais, quelque chose qui est rendu propre et nouveau. Repentez-vous donc, est-il dit, et convertissez-vous pour que soient effacés tous vos péchés, afin que viennent d'auprès du Seigneur des moments de rafraîchissement. Ça vaut la peine de répéter. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que soient effacés vos péchés afin que viennent d'auprès du Seigneur des moments de rafraîchissement. Et là, on peut noter Actes, chapitre 3, verset 19, sans oublier Philémon, verset 7. Et ou E. Oui, E, c'est le langage allemand, évidemment. A, B, C, D, E. Mais en français, je crois, vous dites E. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, réveiller. Oui, réveiller signifie sortir d'une période de torpeur ou de sommeil. L'heure est donc venue de tous nous réveiller de notre sommeil, de notre léthargie. Romains 13, versets 11 à 14, et notez aussi Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Donc, tous ces mots induisent la même idée, quelque chose était vivant, nouveau, glorieux, frais et éveillé. Mais, curieusement, il a disparu. Le réveil le restaure dans sa forme originale. Sa nouveauté, sa gloire, sa fraîcheur et son éveil. Il est donc certain que nous devons prier pour que l'Église soit ranimée totalement de nos jours. Le réveil et l'évangélisation est important. Le réveil, ce n'est pas simplement l'évangélisation, le réveil. Pas plus qu'une évangélisation de masse à une large échelle. Le réveil peut être le fruit de l'évangélisation, d'accord. Et l'évangélisation est toujours le fruit du réveil. Mais ils sont tout de même différents. L'évangélisation est un rassemblement de moyens pour atteindre les non-chrétiens avec l'évangile et les amener à Christ dans son Église. Je n'ai pas dit à une seule étiquette. Le réveil ne peut pas être organisé. On ne peut ni l'initier, ni le faire cesser. Lors du véritable réveil spirituel, Dieu prend les commandes. Et c'est l'œuvre surnaturelle du Dieu souverain à laquelle nous assistons, où l'organisation humaine n'y est que fortuite. En outre, le réveil affecte principalement les chrétiens et l'Église. C'est la restauration de la vie, c'est la revitalisation et la gloire envers Dieu et l'Église. Cela aura certainement des répercussions sur les incroyants et sur la nation, mais simplement en deuxième partie. Le réveil intervient donc lorsque Dieu intervient dans l'histoire humaine pour ranimer la ferveur spirituelle des chrétiens, pour les toucher et les rafraîchir de son Esprit Saint, apportant un renouveau de l'Église et provoquant un nouvel élan d'évangélisation. L'évangélisation est liée au stade initial de l'Évangile. Le réveil, il l'est avec le recul de l'Église. Ils peuvent arriver en même temps, mais ils sont tout de même différents. Le salut, c'est par l'évangélisation, c'est se préoccuper de l'état spirituel des non-convertis. La sanctification se préoccupe de l'état spirituel des convertis. L'évangélisation peut et doit s'activer sans cesse aux quatre coins du monde, suivant Saint Marc chapitre 16 verset 15 et 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Donc, le réveil est un acte souverain de Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu cherche à ce que les conditions nécessaires soient remplies, il peut commencer son œuvre de réveil spirituel. Le réveil dans la Bible, eh bien oui, nous en avons des exemples. On pourrait par exemple en nommer 7. Par exemple, premièrement, prenons notre grand Moïse dans Exode 32 à 40. Pour résultat de ce réveil au mont Sinaï, les Israélites ont reçu l'ordre spirituel de traverser le désert en direction de la terre promise. Ils ont aussi obtenu la force d'affronter les épreuves et les combats dans le désert. Deuxièmement, nous avons Samuel, dans 1 Samuel, chapitre 7, versets 3 à 4. Samuel a appelé les gens d'Israël à retourner leur cœur vers le Seigneur et à délaisser leur Dieu un peu bizarre. Et heureusement, ils ont obéi. Troisièmement, nous avons Élie, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 20 jusqu'au verset 46. Là, il y a des choses à lire. Élie était seul sur le mont Carmel et il a affronté le roi Achab et même les 450 prophètes de Baal. Finalement, tout le peuple du nord du royaume s'est tourné vers Dieu. Quatrièmement, nous avons notre ami Jonas. Dans Jonas chapitre 3, verset 1 à 10, la grande et mauvaise ville de Ninive, elle s'est tournée vers Dieu suite à la prédication de Jonas. Tous se sont repentis et même ils ont revêtu des sacs couverts de cendres et ils ont jeûné. Et Dieu a donc épargné cette grande ville qui était une ville de péché et de perdition. Cinquièmement, nous avons Assa, Ézéchias, Josias, dans 2 Chroniques, chapitre 14 jusqu'au chapitre 16. Le réveil est arrivé dans le pays de Juda sous le règne de ses rois. Sixièmement, nous avons Néhémie. Dans le livre de Néhémie, le réveil est arrivé lorsque le peuple d'Israël est retourné à Jérusalem après sa captivité et qu'il a rebâti la cité. Il est important de noter que tout au long de cette période de l'Ancien Testament, lorsque le véritable réveil arrivait, les gens se repentaient de leurs péchés, s'écartaient de leurs idoles, détruisaient la maison de Baal et tous ses autels, purifiaient et restauraient le temple et son culte de Dieu, plaçant ainsi la parole de Dieu et la loi en première place, en première autorité, et restaurait même le jour du sabbat. Ces mêmes domaines ont besoin d'être traités de nos jours dans notre nation. Lorsque viendra le réveil, cela se produira, croyez-moi. Et septièmement, le Nouveau Testament, selon Actes des Apôtres, c'est le plus grand réveil de tous les temps qui s'est produit dans une chambre haute. Alors, rappelez-vous que 120 croyants fervents ont été remplis d'Esprit Saint et que leurs vies en ont été totalement bouleversées. Ils n'avaient plus peur, ils n'avaient plus de doute, ils n'avaient plus d'incertitude dans leur cœur. Ils avaient dès lors l'assurance, l'autorité, le zèle et l'éloquence dans la prédication et le témoignage. Oui, dès le premier jour, ils ont rallié 3000 personnes à Christ. Actes des Apôtres, chapitre 2. Quelles sont donc les marques du réveil spirituel? Quelles sont ces marques? Là aussi, on peut en nommer 7. Premièrement, un mouvement souverain de Dieu. La marque la plus importante du réveil est le mouvement souverain de Dieu. Certaines choses ayant pu être organisées par l'homme, telles que l'évangélisation, la prédication et les réunions de prière. Et c'est alors que Dieu bouge indépendamment des hommes. La souveraineté de Dieu devient évidente lorsque il bouge selon sa sainte volonté. Deuxièmement, nous avons la soudaineté. Nous devons être préparés parce que l'une des caractéristiques du réveil est la soudaineté avec laquelle Dieu arrive. Et cela tout à fait impromptu, à l'improviste. Malachie chapitre 3 verset 1. Et tout à coup vient du ciel un bruit. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 2. Troisièmement, nous avons la sainteté. Oui. Et qui soutiendra le jour de sa venue? Qui restera debout lorsque il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, Malachie 3, verset 2. Et tout à coup vient du ciel un bruit, Acte 2, verset 2, et nous devons être un peuple saint. L'une des marques du véritable réveil est la restauration et la sainteté parmi le peuple de Dieu. Alors que Dieu confond les hommes à propos de péché, de justice et de jugement, Saint Jean 16, versets 7 à 11, le péché est maintenant découvert et le peuple prend conscience de la sainteté et de la majesté de Dieu lors du réveil. En fait, nous aurons une de ces deux réactions, soit nous louerons et adorerons Dieu, soit nous confesserons le péché lorsque Dieu viendra ainsi. Ceux qui ont un cœur purifié l'adoreront et ceux qui ne l'ont pas se confesseront à lui. Notez Isaïe 6, versets 1 à 7. Et la crainte de Dieu, ce n'est pas la même chose que la peur, s'abattra sur le peuple et l'éloignera du péché. Et ceci implique une grande crainte et une profonde révérence envers Dieu. Le respect et l'obéissance à ses lois, un véritable sens de sa souveraineté et de sa royauté. Les chrétiens tièdes seront restaurés. Ah, ça c'est merveilleux. Les non-croyants seront convertis. Le péché sera traité à la racine. La conviction du péché sera grande et suivie du repentir, du véritable repentir. Et surtout sincère, et sans oublier la confession. Psaume 24, versets 3 et 4, et Isaïe 57, verset 15. Oui, ça c'est très très important. Quatrièmement, nous avons l'Esprit de Dieu qui se répand. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Acte chapitre 2, verset 17. Donc, les chrétiens sont réveillés, remplis de l'Esprit Saint. Ils sont revêtus d'un pouvoir venant du haut, de Dieu, dotés de dons surnaturels et de l'Esprit Saint. Et cinquièmement, nous avons la prière et l'étude de la parole de Dieu. En période de réveil, eh bien, les humains se tournent plus que jamais vers la prière et vers la parole de Dieu. Sixièmement, nous avons la nation qui, elle, saura. Aucun réveil ne survient en total secret. Lorsque Dieu bougera de cette façon, la nation le saura, croyez-moi. Le monde entier entendra parler de ces gens qui ont bouleversé le monde. Les voilà maintenant, ils sont ici. Acte des apôtres, chapitre 17, verset 6. Je répète, acte 17, verset 6. Et, sixièmement, nous avons la persécution, hélas. Et oui, et le sang qui est versé. L'opposition au mal, à Satan, à l'ennemi, et la persécution sont le résultat. Nous serons persécutés. Le sang sera versé, succédant souvent au réveil. Lorsque Dieu bouge, croyez-moi, le diable s'y oppose avec toute son armée de démons. Les démons s'agitent. Il suscite la haine, la persécution et la résistance. Cela s'est produit dans l'Église primitive, cela s'est produit dans des pays prêts à être submergés par les extrémistes. Mais il ne faut pas craindre la persécution parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Cependant, Dieu veut tellement une église et une nation réveillée qu'il usera si nécessaire, évidemment, si nécessaire, de la persécution pour provoquer le réveil. Comment nous préparer au réveil? Comment? Eh bien, il faut tout d'abord avoir le besoin du réveil. Et là, on peut citer pour terminer cet exemple. Si nous sommes aveuglés et ne voyons pas le besoin du réveil, alors nous n'aurons jamais la foi d'intercéder réellement pour tout cela ou de le préparer. Il suffirait que l'Église remplisse les conditions pour bénéficier du réveil quand elle veut. Le problème de l'Église est celui de Gethsémané. Elle dort. Oui, prions pour que Dieu ouvre nos yeux et ceux des autres chrétiens afin de voir le besoin d'intercéder et de préparer. Deuxièmement, nous devons être prêts. Le réveil vient soudainement et nous devons donc être prêts, dotés de la foi, de croire que le temps peut immédiatement être là. Troisièmement, nous devons prier. Selon 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, là, 2 Chroniques 7, verset 14, préconise de s'humilier. Oh, combien c'est difficile de prier, de chercher la face de Dieu et de nous détourner de nos voies mauvaises. Nous devons donc prier pour les ouvriers. L'élément humain a une moindre importance en période de réveil, mais Dieu peut encore utiliser les hommes et les femmes pour susciter le réveil ou bien en cours de réveil. Prions pour que le Seigneur élève les hommes et les femmes de Dieu avec une vision et un appel au réveil, ceux qui sont loin et inspirés pour guider le peuple de Dieu en période de réveil. Saint Matthieu 9, versets 36 à 38. Prions donc pour les prédicateurs, les enseignants, les évangélistes, les dirigeants et tout simplement pour tous les soldats de la prière. Quatrièmement, nous devons être unis. L'une des caractéristiques principales de l'Église dans Acte est son unité. Acte 1, verset 14, chapitre 2, verset 1, chapitre 4, versets 24 et 32, chapitre 5, verset 12, toujours dans Acte des Apôtres, chapitre 8, verset 6, ainsi que chapitre 15, verset 25. Prions donc afin que les véritables croyants soient unis dans le corps de Christ, qu'ils espèrent d'un seul cœur et d'un seul esprit, que l'Esprit de Dieu se répande sur toute chair. Cinquièmement, nous devons apprendre comment lier les pouvoirs des ténèbres. Ça, c'est important. Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir de lier les puissances de ténèbres selon Saint Matthieu, chapitre 16, versets 18 et 19, et selon Jacques, chapitre 4, verset 7. Donc, prions afin que Dieu élève des hommes et des femmes qui ont le discernement et le pouvoir de délivrer tous ceux qui sont liés, et ceci par les puissances des ténèbres, telles que l'occultisme, possession démoniaque, spiritisme, etc. Sixièmement, nous devons apprendre à prier. La prière, le culte, est une joie immense, accompagne le réveil. Tout cela accompagne le réveil. Ce n'est pas notre combat, pas du tout, mais c'est celui du Seigneur. 2 Chroniques 20, versets 1 à 30. Donc, prions afin que Dieu mène son peuple vers le véritable culte, vers la véritable adoration et la véritable louange de Dieu en esprit et en vérité, selon son saint désir. Saint Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Et septièmement, nous devons éviter les dangers. Nous devons nous affronter, et nous devons hélas affronter quatre dangers en période de réveil. Voyons cela. Nous devons rechercher son propre salut. Nous devons s'attacher à des sentiments ou des manifestations physiques, avoir un orgueil spirituel, tomber dans l'excès et les manifestations charnelles, c'est exclu. Prions donc afin que Dieu nous donne la sagesse d'éviter tous ces dangers associés au réveil et que lors du déversement de l'Esprit-Saint en ces derniers jours, nous puissions voir une œuvre véritable, une œuvre profonde de l'Esprit de Dieu qui lui procure beaucoup de gloire et qu'il puisse sauver les égarés et qu'il puisse ranimer et restaurer l'Église dans son ensemble. Ne nous feras-tu pas revenir à la vie ? Nous dit le psaume 85, versets 6 à 7. Ne nous feras-tu pas revenir à la vie ? Pour que ton peuple en toi puisse se réjouir, fais-nous voir, ô Éternel, ta fidélité. Oui, ton salut, donne-le-nous, accorde-le-nous. Et là, nous pouvons dire Amen. Chers amis, nous allons terminer par la prière et nous pouvons, bien sûr, d'abord, citer par exemple Ésaïe, chapitre 55, versets 10 et 11. Il est dit, je crois, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retournera point à moi sans effet. Oh non, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et nous pouvons donc prier maintenant. Seigneur Christ, après toi seul soupire notre âme. Oui, et c'est à toi seul que réclame notre être. Toi seul peux nous octroyer des dons réellement salutaires, des valeurs solides et des biens qui ne s'évanouissent jamais. Nous venons à toi et nous te demandons, donne-nous ce dont nous avons besoin. Grâce te soit retenue et rendue au Dieu, et ceci pour avoir semé dans nos cœurs le grain de ta sainte parole. Donne-lui la croissance et la fécondité. Garde-nous de l'ennemi, pour qu'il ne mêle pas son ivraie à ta sainte semence, et préserve-nous de toute négligence frivole, de toute fausse assurance, afin que le fruit bien protégé, cultivé avec prière et respect, puisse mûrir en son temps. Amen. Et chers amis, merci pour tout l'intérêt que vous continuez de porter à ses études. Aussi, soyez bénis et que nous puissions grandir ensemble, toujours plus, dans la parole de Dieu, dans la connaissance que nous avons plus que jamais besoin dans ces derniers temps, puisque nous arrivons à l'aurore de la dispensation de jugement. Nous terminons bientôt, peut-être déjà, la dispensation de la grâce. On le voit quand nous voyons, en ouvrant la télévision, les journaux, tous ces jeunes qui brûlent les voitures, qui dérobent tout ce qu'ils peuvent des magasins qu'ils ont incendiés parfois, en tout cas fracassés, et tout le reste qui est épouvantable. Tous les jours des meurtres, tous les jours des choses tellement tristes que cela n'a jamais existé. Il y a seulement 20 ans. Bien sûr, il y en a qui diront que ça a toujours existé, mais pas comme ça. Alors, allons de l'avant dans la victoire. Soyons surtout et restons surtout vigilants, plus que jamais. À bientôt à nouveau, mes très chers amis, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.